Donc on va essayer de terminer avec j'ai changé le titre court par rapport à ce qui était annoncé. J'avais annoncé une théologie du péché originel et ce sera une théologie de la création et évolutionnisme. Donc j'insisterai plus sur création que sur péché originel et évolutionnisme, et puis un petit mot sur Théard de Chardin. Alors c'est un sujet absolument passionnant, évidemment, qui a beaucoup bouleversé donc les esprits depuis la fin du XVIIIe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, tout le monde pensait que l'univers était fixe. Tout le monde était fixiste, comme on dit. Hein? Donc ça voulait dire que tout le monde croyait, même si on ne croyait pas en Dieu, mais on croyait que la création était comme ça depuis toujours et pour toujours, et que les espèces se succédaient, et voilà. Hein. Et puis, il y a eu cette grande révolution de l'introduction de l'idée de l'évolution dans les esprits. Et donc, je souligne que c'est une idée assez récente. Hein. Assez récente, vous trouvez que 200 ans, c'est peut-être beaucoup, mais à la fin du XVIIIe siècle, on avait toujours les idées d'Aristote. Ça n'avait pas bougé. Bien sûr, on avait beaucoup perfectionné les détails, etc. Mais l'idée générale est exactement la même. Et d'ailleurs, je vous montrerai que, d'une certaine manière, on n'a pas tout à fait abandonné ces idées. Hein? On a modifié quelque chose, mais on est encore un peu avec les schèmes d'Aristote. Alors, est-ce que la théorie de l'évolution met en échec la théologie chrétienne de la création? Alors, il faut savoir que déjà la création, c'est une idée qui n'est pas si courante dans l'humanité. Par exemple, en Asie, Monseigneur Béranger, qui a été 15 ans en Corée, explique que pour les Asiatiques, bouddhistes, etc., l'idée même de une création, c'est absolument incroyable. Hein? C'est pas possible. On a parfois l'idée que l'incarnation est un scandale, hein, pour des bouddhistes par exemple, mais l'idée de création aussi. Donc l'idée que le monde est comme il est, et qu'il est comme ça depuis toujours, et qu'il n'y a pas besoin de chercher une origine et une fin, et que voilà, on passe, et puis les autres passent, et puis tout le monde passera, et puis jusque quand, on n'en sait rien. Cette idée est fort ancrée dans l'humanité. Toute la partie asiatique du monde, les religions asiatiques, pense comme ça. Le monde est éternel, éventuellement il est infini dans l'espace, en tout cas il est fixe. Pascal aussi pensait que le monde était infini dans l'espace. C'était sa pensée. Mais il y a quand même l'idée de création donc, qui est chrétienne et qui est fort différente de ses pensées donc asiatique. Mais l'idée de création est bien ancrée dans les mentalités européennes, en tout cas, depuis longtemps, et jusqu'au XVIIIe siècle, je veux dire jusqu'à la Révolution française. La Révolution française n'a rien à voir avec ça, mais c'est la même époque, quand on a commencé un peu à se demander ce qu'étaient des fossiles. Des fossiles, c'est quoi? C'est un petit animal qui a été pétrifié dans une pierre, et on reconnaît l'animal. Alors c'est pas un squelette, c'est quelque chose qui a été complètement pétrifié, cristallisé, donc c'est du dur, mais dans certains cas on reconnaît vraiment un animal, une partie d'animal, et on reconnaît des animaux, disons, d'actuels, mais on reconnaît aussi des animaux qui n'existent plus. Alors ça c'est une grande question. C'est une grande question pour les naturalistes. Comment se fait-il donc qu'il y a des espèces qui ont apparemment disparu, qui se sont éteintes? Ça a été la première grande question. Alors, à partir de cette question, il y aura Darwin, bien sûr, avec l'idée de l'origine des espèces, livre qui est paru en 1858 ou quelque chose comme ça. Donc, après avoir fait un voyage aux Galapagos, etc., et avoir vu des animaux qu'il ne voyait pas souvent, alors il s'est imaginé la question de l'origine des espèces, milieu du 19e siècle. Et ensuite, Donc ça, c'est plutôt le côté biologique, hein? Donc la nature, les sciences naturelles. Et puis alors, il y a eu, vers le début du XXe siècle, toute la question de la relativité, hein? De l'univers en expansion. Alors vous savez qu'Einstein était contre cette idée, hein? La relativité restreinte, puis la relativité généralisée. Puis alors, il y a eu des congrès ici à Bruxelles même, les congrès Solvay, hein, où chaque année, ou toutes les deux ans, je ne sais pas, Einstein se réunissait avec Heisenberg et d'autres, etc. Et il n'était pas d'accord. Einstein ne voulait pas de la théorie de l'expansion de l'univers. C'est le maître, le chanoine Lemaître, un Belge, hein, qui a popularisé cette idée, et maintenant c'est le modèle standard, comme on dit. Le modèle standard, qui fait remonter donc le début de l'univers à 15 millions d'années derrière nous. 15 milliards d'années derrière nous. Alors, cette théorie donc a un côté physique, l'astrophysique, hein, et un côté biologique, donc du côté plutôt de Darwin. Alors, ce sont donc deux choses qui essaient de se compléter, mais qui sont très, très, très éloignées l'une de l'autre, très différentes l'une de l'autre, hein. Les astrophysiciens, eh bien, malgré les apparences, ils ont affaire à 15 milliards d'années, mais c'est peut-être beaucoup plus facile que d'avoir affaire à des chromosomes et à de l'ADN. Hein. Ça a l'air beaucoup plus compliqué. Hein. 15 milliards d'années, ben voilà, on ajoute les milliards aux milliards, mais c'est toujours les mêmes milliards. Hein. Mais l'ADN, à chaque petit truc, hein, et c'est de l'ordre d'une nano, je ne sais pas quoi, ça change. Donc c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que cette théorie, finalement, met en échec la conception habituelle de la théologie chrétienne? Eh bien, Jean-Paul II a dit, l'Église a beaucoup résisté, mais Jean-Paul II a dit en 1996, par exemple, qu'aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la parution de l'encyclique Humani Generis, qui faisait difficulté à cette théorie, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître que la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse. La théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse. Bon, alors ça veut dire quoi? On va un peu le voir, hein, parce que hypothèse et théorie, ce sont des mots précis en science. Hein. C'est pas simplement, bah, tiens, une idée comme ça qui passe par la tête. Hein. Ce sont des mots précis. Et Benoît XVI, en fait, en 2008, a dit la même chose. Hein. Aux Bernardins, il a dit qu'il n'y a aucune incompatibilité entre création et évolution. Aucune incompatibilité entre création dans le concept chrétien, hein, et évolution. Alors, donc nous allons faire un peu d'épistémologie. Ça veut dire de comment combiner ensemble les savoirs, comment les comparer, comment ne pas tout mettre sur le même pied. La philosophie, c'est pas la psychologie. La psychologie, c'est pas l'astrophysique. L'astrophysique, c'est pas la biochimie, etc. Il faut un peu distinguer ces sciences et leur manière de travailler. Et voir si on peut faire des ponts entre ces sciences. Hein, il ne faut pas aller trop vite. Hein. De l'astrophysique à la... Hein, via l'énergie quantique, bon, ça influence mon complexe d'Édipe. Non, c'est un peu court comme raccourci. Hein. Et la théorie quantique a bon dos. Hein. Il y a des tas de gens qui ont trouvé que la théorie quantique, ben, expliquait les choses. Ben, ouais, les ponts. Alors, qu'est-ce que c'est en fait une théorie scientifique? J'ai fait un petit schéma là-bas. C'est le schéma de Claude Bernard, très ancien aussi, 1859, je ne sais pas quoi, par là, dans Introduction à la médecine expérimentale. Et c'est un schéma qui vaut toujours en épistémologie, comme d'ailleurs beaucoup de schémas kantiens, par exemple, valent encore pour les sciences aujourd'hui. Il y a des faits que l'on observe. À force d'observation, on voit que des lois se dégagent. Mais ce n'est pas un travail inductif. Hein, on voit des faits, 1, 2, 3, 5 000, etc. Et puis on dit, ben tiens, il y a une loi qui peut se dégager, mais c'est de l'induction. Ça veut dire à partir de nombreux cas particuliers, on essaie de tirer une loi plus universelle. Quand on a des lois, alors il y a la loi de l'électricité électrique, puis la loi des fluides, puis la loi de la gravitation, puis la loi de... pour toute une série de lois, l'une à côté de l'autre, qui chacune décrivent un certain domaine du réel. Alors, on fait des hypothèses pour essayer d'avoir une théorie qui rassemble toutes les lois. Une théorie unique. Hein? Une théorie du tout. Une théorie qui essaie de systématiser toutes les lois qu'on a repérées, dans toute leur précision mathématique, etc., et de les mettre ensemble, de les comparer. que la gravitation et l'électromagnétisme, bien, ce ne soient pas deux domaines séparés, mais deux domaines connexes. Hein, deux domaines qui s'expliquent l'un par l'autre, éventuellement. Ça, ce serait l'idéal. Hein. Et d'arriver, finalement, à une espèce de formule générale, hein, qui est appelée... symboliquement E égale MC carré, hein, c'est une formule extrêmement vaste évidemment, hein, qui réunit beaucoup beaucoup de choses, la formule d'Einstein, mais cette théorie, donc, elle vient à partir d'observations, de lois, d'hypothèses, de théories, mais c'est une espèce de super théorie, hein, de super structure de plusieurs hypothèses, et alors quand on a cette théorie, qui a été tirée par induction, c'est très important, hein. Par induction, ça veut dire par observation des faits particuliers. Alors on essaye de faire le chemin inverse, de partir de la théorie, de la remettre devant et d'en déduire les faits. Ça veut dire, puisque hein, la théorie dit ça, le fait doit être comme ça, le fait doit être comme ça, le fait doit être comme ça, et on essaie de déduire. Alors la déduction, c'est tout à fait différent de l'induction, hein, parce que la déduction, c'est mathématique, c'est nécessaire, hein, il n'y a pas d'exception. Tandis que l'induction, c'est à partir de cas particuliers qu'on essaie de généraliser. Là, c'est à partir du général qu'on essaie d'expliquer tous les cas particuliers. Donc vous voyez qu'il y a une très grande différence entre l'induction et la déduction, et que la théorie est au bout de tout un travail d'induction. Mais après, idéalement, on doit revenir devant, comme dans un système axiomatique. Ça veut dire, hein, on prend deux, trois axiomes, ça veut dire des vérités indémontrées, qu'on admet, par exemple en géométrie, ben, par deux points sur un plan, par deux points on peut faire passer une droite et pas plus qu'une. Voilà, c'est un axiome euclidien pour la géométrie plane, hein, par deux points on fait passer une ligne droite et pas plus. Voilà, des axiomes, ce sont des vérités qu'on ne peut pas démontrer, qu'on admet, et à partir de là on va déduire toutes les autres. Déduire mathématiquement, logiquement. Donc une théorie, c'est quelque chose de très idéal, de très lointain, de très général, et on espère évidemment que ça aura de la solidité, et en fait les scientifiques sont toujours occupés à, hein, remettre leur théorie plus adéquate par rapport à des observations qu'ils n'ont pas encore intégrées, etc. Donc c'est un long travail, et dire qu'on a la théorie de l'univers, ben ça, il n'y a personne qui pense ça, hein. On avance vers, et on croit qu'avec l'évolution, la théorie de l'évolution, on a vraiment quelque chose d'assez général et d'assez solide. Alors, je dirais que les grands principes de cette théorie, au niveau de l'astrophysique, c'est l'expansion de l'univers, c'est l'entropie, ça veut dire que l'énergie est toujours en déperdition dans un système ouvert, sont les principes, les lois de thermodynamique. Et au niveau de la biologie, c'est l'adaptation, la sélection naturelle, les mutations génétiques. On a observé qu'il y avait des mutations qui pouvaient être transmises héréditairement. Alors est-ce qu'avec ces mutations, on ne va pas expliquer tout un avancement des espèces animales, etc. Bon. Alors la théorie du Big Bang, c'est en physique, il y a 15 milliards d'années, il y aurait, donc je rappelle que c'est le chanoine Georges Lemaître, né à Charleroi, qui a inventé cette histoire et qui l'a présenté à Einstein, qui a dit c'est pas vrai, 10 ans après il l'a admis, hein, disant que voilà, au début il y avait un atome primitif, alors pas dans le sens de l'atome courant, hein, un atome primitif, avec une énergie infinie, température extrêmement élevée, éventuellement infinie, et au contraire des dimensions très réduites, infiniment petites. Et alors il y a eu une espèce d'explosion, et à partir de cette explosion, eh bien, tout s'est mis en route, et ça a été la constitution progressivement, eh bien, de certains atomes, et puis de tous les atomes, et puis des systèmes solaires, et puis des étoiles, et puis de la Terre, etc. Et on peut, semble-t-il, mesurer dans le temps, hein, mais à reculons évidemment, hein, comment tout l'univers s'est ainsi constitué, l'univers des galaxies, des étoiles, etc. Alors cette explosion fait que l'univers est encore occupé à s'étendre, hein. Ce sont des expériences qu'on a faites, hein, on observait des étoiles et on avait l'impression, et puis on l'a corroboré, hein, que ces étoiles étaient occupées à s'enfuir, qu'elles allaient plus loin, toujours plus loin. Donc c'est l'effet de l'explosion. Alors, voilà, je dirais que cette partie-là de l'astrophysique, évidemment c'est très compliqué, je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est assez simple malgré tout, hein, par rapport à ce que nous allons voir avec la biologie. Hein, parce qu'un être vivant, une mouche, c'est sans doute bien compliqué. Hein. Alors, il y a des preuves de tout cela qu'on trouve comme ça, parfois par hasard, ou bien on les cherche. Par exemple, il y a des scientifiques, Gamow par exemple, qui a prétendu vers 1948 qu'il devait encore y avoir un écho de cette explosion. Même 15 milliards d'années après, cette explosion ayant été tellement grande, il devait y avoir un écho. Alors pas un écho sonore, hein, mais un écho, c'est difficile à expliquer, de rayonnement, etc. Et donc le boom, mais de nouveau je dis, c'est pas du son, hein, c'est autre chose que du son, eh bien, ce boom était encore dans l'univers. Il y avait un bruit de fond de l'univers qui devait recueillir cet écho. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors, ce Gamow a déduit cela de certaines... Voilà, il a fait l'hypothèse, hein, l'hypothèse que ça devait se passer comme ça. Et en effet, quelques années après, il y a deux employés de Bell Telephone, hein, qui faisaient des histoires avec des antennes et tout, et qui ont entendu tout le temps un bruit de fond sur leurs antennes et qui se sont demandé ce que c'était, et progressivement, eh bien, ils en sont arrivés à déduire que c'était ce bruit de fond, hein, de l'explosion primitive. Le rayonnement fossile, hein, extrêmement atténué, mais finalement que tous nous entendons, enfin, c'est pas avec les oreilles, mais que tous nous sentons dans cet univers. Alors ça, ce sont évidemment des aventures astrophysiques extrêmement intéressantes, hein, de se rendre compte que on peut prévoir des choses, et puis après un certain temps, eh bien, on a les appareils qu'il faut, parfois par hasard, hein, pour détecter en effet des indices que ce qu'on était occupé à prévoir, eh bien, semble s'avérer exact. Quel est l'avenir de cet univers qui explose ? Alors il y a deux scénarios. Hein, on ne sait pas lequel sera le bon. Hein. Il y a le Big Freeze et le Big Crunch. Le Big Freeze, ça veut dire la congélation générale de tout. Cette énergie était extrêmement élevée, chaude, etc. Eh bien, ça s'arrêtera lorsque tout sera refroidi au zéro degré absolu. Alors tout l'univers sera immobile et voilà, on ne sait pas ce qui se passera après. C'est le Big Freeze. Mais d'autres disent au contraire que ce sera le Big Crunch. Ça veut dire que cette explosion après va se réimploser, hein, et tout va revenir vers un centre. Donc il y a un scénario centrifuge et un scénario centripète, parce que la force de la gravitation est telle que la masse attire la masse, donc eh bien, normalement les masses doivent se réunir progressivement en un seul point. Alors quel sera le bon scénario ? Ben, on est occupé à trouver des arguments dans un sens et dans l'autre, on n'en sait trop rien, mais on sait que l'univers est passé par des seuils critiques. Alors ça, c'est fort intéressant. Les seuils critiques, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a deux possibilités et on est extrêmement près de l'une comme de l'autre. Et on ne sait pas, on ne peut pas prévoir, hein, si on va tomber dans le trou de gauche ou dans le trou de droite, hein, mais on est sûr qu'on va tomber parce que le fil est trop petit, trop tendu, hein, il faudra tomber à gauche ou à droite. Mais on n'en sait rien. Il y a des seuils critiques comme ça, qui se passe dans la physique, mais aussi dans la biologie, hein, et on cherche à prévoir, hein, ce que sera la décision, je dirais, de l'univers, de tomber à gauche ou à droite, mais on n'en sait rien. Donc ce sera soit le Big Freeze, soit le Big Crunch, semble-t-il, mais je vous signale que le Big Crunch, c'est la ekpyrosis des stoïciens. Donc c'est une idée bien antique, hein. Les stoïciens avaient déjà inventé que tout allait se consommer dans un grand feu, ekpyrosis. Voilà, donc c'est curieux que des idées très très scientifiques, et bien parfois, et bien c'est repris à des mythologies ou à des pensées extrêmement antiques. Alors, l'apparition de la vie sur la Terre. Bon, d'abord, voilà, il faut d'abord que la Terre soit là, que le système solaire soit là, etc. Et il y a toute une apparition, semble-t-il, de la vie progressivement. Et la vie va en se compliquant, jusqu'à produire des organismes vivants qui se compliquent, et puis finalement, eh bien, ça c'est le schéma de Darwin, hein, nous en arriverons carrément aux hominidés, et parmi les hominidés, à l'homme. Hein, et voilà, c'est comme ça qu'au bout du compte, tous les organismes vivants que nous voyons autour de nous ont été produits. Hein. Alors, ces hominidés viennent-ils en effet d'organismes plus primitifs, etc. Et comme on dit, l'homme descend du singe, est-ce que c'est vrai? Bon, alors, là aussi, je crois que il y a beaucoup d'arguments qui sont très intéressants, hein. Des arguments paléontologiques, c'était les premiers, les fossiles, mais bientôt on est passé aux arguments plus génétiques, hein, avec l'étude des chromosomes, avec l'étude de l'ADN, etc. Même des arguments linguistiques. En étudiant les langues, on se rend compte que ben, finalement, toutes les langues ont une espèce de logique unique, et qu'elles doivent provenir d'un langage qui, peut-être, en tout cas, semble assez proche, hein, les uns des autres. Alors, la paléontologie, elle a livré beaucoup d'arguments, mais je dirais plus on trouve des fossiles, plus les arguments du début sont démentis. Alors ça, c'est un peu embêtant, hein. Quand Darwin réfléchissait sur 1000 fossiles, il avait fait son hypothèse. Maintenant qu'on a 250 000 fossiles, espèces fossiles plutôt découvertes, eh bien, on peine à réunir tous ces faits, hein, dans la théorie de l'évolution. En génétique, c'est la même chose, hein. Le schéma de la mutation, ça a l'air d'être un beau schéma, mais quand on fait des expériences, eh bien, les ADN ou les chromosomes ont beau se ressembler, eh bien, il y a quand même des barrières. Hein. Il y a des barrières, même s'il y a une toute petite différence, cette barrière chromosomique, par exemple, eh bien, empêche les recoupements, par exemple, des espèces, etc. Bon. Donc, c'est assez curieux de se rendre compte que c'est pas avec le temps qu'on trouve tellement de preuves beaucoup plus probantes. Hein. On est toujours dans la même hypothèse, d'accord? Mais comme je vous ai dit une fois, hein, la théorie de l'évolution, c'est comme un immense puzzle qui serait comme cette pièce-ci. Et on a trouvé 54 pièces. Bon, alors on dit, ben voilà, ça doit aller par là. Maintenant, quand on en a trouvé 5000, eh bien, ça ne cloque quand même pas si bien que ça. Hein. On en a plus, mais il en faudrait des millions, sans doute, pour les mettre ensemble. Alors, il y a l'idée de cet ancêtre commun. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Avant cela, je vais vous dire un petit peu quelles sont les étapes de l'hominisation. Hein. La bipédie, marcher sur deux pieds, et avec la bipédie, la bascule occipitale. Ça veut dire que quand on est à quatre pattes, eh bien la tête, elle est ici. Tandis que quand on se met sur deux pieds, eh bien, la tête ne repose plus du tout de la même manière sur la colonne vertébrale, et c'est au milieu, hein, qu'il faut que la colonne vertébrale vienne et que la tête se pose au milieu. Donc ce n'est plus un objet suspendu au bout d'une corde comme ceci, hein, c'est un objet posé sur un bâton. Cela change tout sur la manière dont le crâne se développe. Alors ça, c'est au niveau morphologique extérieur, très 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 primitif, je dirais, hein, très rudimentaire comme description. On voit ensuite que dans l'évolution de l'homme, eh bien son crâne, en effet sa boîte crânienne commence à prendre de l'extension, et il se sert d'abord d'outils. Alors on parvient à dater, mais attention, les datations sont souvent aussi très trompeuses, hein. Il y a des gens qui ont daté d'il y a 200 000 ans, et puis il y a un autre qui vient et qui dit non, c'est un million d'années. Oui, mais en 200 000 ans et un million d'années, il y a quand même une petite différence. Hein. Alors quand il faut tout réviser, hein, parce qu'une technique plus avancée permet de dater autrement, il faut faire beaucoup d'efforts de révision sans cesse de toutes ces hypothèses qu'on a faites. Donc il semble que l'homme a d'abord utilisé des outils, puis il a maîtrisé le feu, puis il a même commencé à pratiquer la sépulture, l'art, et sans doute le langage, mais le langage, c'est très difficile de trouver des traces du langage avant que le langage ne devienne écrit. Mais évidemment, il y a sans doute eu des milliers d'années, hein, avant que le langage parlé devienne un langage écrit. Mais il n'y a que le langage écrit qui nous prouve qu'il y avait vraiment un langage. Alors en effet, on observe beaucoup de continuité phénoménale entre ces différentes espèces qui mèneraient soi-disant à l'homme. Mais est-ce que cette continuité phénoménale, ça veut dire dans l'apparence, j'ai deux bras, j'ai une tête, oui, ben ça d'accord, mais les chromosomes c'est tout à fait autre chose, hein ? Quand on compare les chromosomes, on a beau avoir deux bras et une tête comme le singe, les chromosomes c'est très différent. Donc on a quand même travaillé beaucoup au début avec les apparences, ce qui était phénoménalement observable. Et on a tiré des conclusions peut-être un peu hâtives. Alors, je vous fais un petit schéma qui me semble être une critique de la théorie de l'évolution. D'où vient le schéma évolutionniste que je viens de vous esquisser à très grand trait, évidemment, de manière fort sommaire, d'Aristote à Darwin. Alors, Aristote avait déjà une échelle des êtres. Il disait, il y a les êtres qui existent, bon, alors il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, il y a ceci, il y a cela, et il avait déjà tout un arbre, attention, un arbre métaphysique, je dirais, un arbre de description mentale de ce qu'était un animal, les animaux qui se ressemblaient, etc. Voilà, il les comparait entre eux. Un disciple d'Aristote, Théophraste, par exemple, eh bien, a passé son temps à classer les plantes, à classer les animaux dans des catégories, etc. Donc c'était déjà très avancé pour l'époque, mais le schéma était exactement le même. Alors le schéma était comme ceci, si vous voulez. C'était un exemple que je prends. C'est un schéma mental, en disant par exemple les outils de l'homme. Les outils de l'homme, il y a des outils mécaniques et il y a des outils à moteur. Pas chez Aristote, bien sûr. Alors, dans les mécaniques, il y a par exemple les leviers. Dans les leviers, il y a la pince à sucre, et puis il y a la brouette, je ne sais pas quoi, bon. Dans les moteurs à explosion, il y a la voiture, le moteur électrique, il y a la foreuse, le moteur à réaction, il y a l'avion, par exemple. Mais il est bien clair que tout ceci, tout ce qui est au-dessus de cette ligne, n'existe pas. N'existe pas en soi, il existe dans la tête de celui qui analyse une pince à sucre ou bien une brouette ou bien une voiture ou bien une foreuse ou bien un avion. La chose qui existe sont bien sûr ces objets-ci en dessous. Ça existe. Mais le moteur à explosion, ça n'existe pas. Alors vous allez dire, oui, ça existe. Oui, ça existe dans le bouquin de l'ingénieur. Dans son bouquin, ça existe, le moteur à explosion. Ça existe, le moteur électrique. Mais c'est dans sa tête que ça existe, et éventuellement sur son plan. Mais le plan d'un moteur électrique n'est pas le moteur électrique. Ce qui existe, c'est ceci. Donc ici, on est bien dans une existence, je dirais, mentale, et ici, dans une existence réelle. Eh bien, Aristote avait déjà fait, avec Théophraste, ce même schéma. Parmi les êtres, il avait déjà distingué les minéraux, les végétaux, les animaux, et puis toutes sortes, peut-être pas avec autant de précision que ceci, mais il avait distingué parmi les animaux, ceux à deux pattes, ceux à quatre pattes, etc. Bon, il avait déjà fait tout un schéma comme ceci, mais qui était bien sûr un schéma mental, que l'homme utilisait pour classer les choses, pour essayer de maîtriser le réel à travers l'abstraction. Mais il était clair que c'était les choses ici qui existaient. Nous avions une existence réelle, seuls les individus existaient. Parce que on mettait, avec le schéma, je dirais, de l'essence, alors on mettait de la matière et on avait un individu. Mais ceci n'existe pas comme tel. Ceci existe pour Aristote, dans la tête d'Aristote, dans le livre d'Aristote, pour expliquer le réel. Le tigre, etc., il est dans la nature, et le tigre, il ne sait pas qu'il est un mammifère. Bien sûr, il ne sait pas. Mais Aristote ne sait pas non plus ce qu'est un mammifère. Il sait que le tigre en est un. Mais le mammifère comme tel, il peut en donner une définition, mais il n'a jamais vu le mammifère. Le mammifère optique qui réunit tous les mammifères. Non, ce n'est pas possible. Le mammifère, c'est une définition. C'est une définition abstraite. Vous voyez, il y a évidemment des séries de mammifères, bon, Mais eux, ils sont dans le réel. Hein? Ici, on est dans l'abstrait. Alors moi, il me semble, c'est une critique que je fais en tout cas, à la théorie de l'évolution. Au fond, qu'est-ce que la théorie de l'évolution a fait? Eh bien, elle a pris ce schéma abstrait qu'elle connaissait depuis très longtemps. Hein? Ça fait 23 siècles au moins qu'on travaille comme ça. Hein? On connaît bien ça. Mais on a dit, ben non, ça, au fond, c'est l'échelle du temps. Hein? Ça, c'est l'échelle du temps. Et alors, en effet, les êtres, ben, le végétal, ben, tout à coup, il a donné de l'animal, on ne sait pas comment, et puis, il y a eu différentes espèces, il y a le chordé, hein, les chordés, les vertébrés, parmi les vertébrés, il y a les mammifères, mais il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres branches ici, bien sûr. Les mammifères, ben, il y a les primates. Parmi les primates, il y a les lémuriens, les tarsiens, les simiens, les singes, hein. Et puis les hominidés. Et puis parmi les hominidés, il y a toutes sortes encore d'espèces, les australopithèques, les néandertaliens, mais ils ont disparu, semble-t-il. Et puis après, il y a l'homme de ceci, l'homme de cela. Et puis nous avons l'homme ici, dans le réel, aujourd'hui. Mais, je dirais pour Darwin, cette ligne-ci signifie aujourd'hui. Mais ceci signifie hier. Comprenez, hein? Ceci signifie hier, mais pas pour Aristote. Pour Aristote, ceci signifiait aujourd'hui, et ceci signifiait dans ma tête. Dans ma tête. Alors, je me demande si on a vraiment tellement évolué par rapport à Aristote, hein? Sauf qu'on a injecté dans son schéma abstrait, on a injecté le temps. Mais il est clair que pour Aristote, tout ceci, ce n'est pas matériel, c'est abstrait. Hein? Mais on a mis une ligne du temps, on a mis la matière dès le début, et on pense, on fait l'hypothèse. Hein? Je ne sais pas s'il faut y croire ou pas y croire, hein? Mais en tout cas, disons, c'est comme ça que maintenant que la théorie de l'évolution se présente. Voilà, c'est une évolution dans le temps. Hein? Alors on date ici, ça c'est moins 15 millions d'années, etc. Enfin bon, on date les choses avec une certaine précision, qui parfois varie, bien sûr, d'un scientifique à l'autre. Mais voilà, donc ça c'est une question que je me pose. Les scientifiques de l'astrophysique se posent aussi des questions, hein, à partir de ce Big Bang, qui est pour l'instant la meilleure théorie du tout. Hein? Mais ils se posent des questions, et je dirais, comme c'est plus simple, je crois, eh bien, ils se posent des questions plus radicales et plus honnêtement, peut-être, hein, que les autres. Alors, le mur de Planck. Est-ce que vous savez ce que c'est le mur de Planck? Le mur de Planck, eh bien, c'est ce moment après le Big Bang. C'est ce moment après le Big Bang où l'énergie a commencé à transformer en matière, donc en temps, donc en espace, etc. Mais le mur de Planck, c'est quand on recule donc d'aujourd'hui vers le Big Bang, c'est le moment où il n'y a plus moyen d'aller au-delà. Nos appareils de mesure, ou même nos équations, je ne sais pas exactement, hein, sont incapables de se dire ce qui s'est passé au-delà de ce mur de Planck. Alors le mur, ce n'est pas un mur, bien sûr, hein, mais c'est une espèce de limite absolue, où semble-t-il, les lois de la physique, là, c'était trop concentré, trop infini comme données, et donc il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passait au-delà de ce mur de Planck. Alors ce mur de Planck, c'est une fraction de seconde après le Big Bang, hein? Mais c'est justement ça qui nous intéresse, hein? C'est ce qui s'est passé au moment du Big Bang, hein? Si on veut des stops, hein, juste 5 secondes avant, vous ne pouvez pas savoir, ça c'est embêtant, quoi, hein? On voudrait savoir, mais les physiciens disent eux-mêmes, nous ne parvenons pas à savoir ce qui s'est passé avant. Donc, hypothèse, est-ce qu'il y a un créateur, est-ce qu'il n'y a pas de créateur, est-ce que, etc., ben, tout est ouvert. Tout est ouvert, même pour les scientifiques. Hein? Alors, il y a le principe d'incertitude de Heisenberg, qui est que certains phénomènes ne peuvent pas être mesurés avec précision, parce que la mesure elle-même influence le phénomène mesuré. Alors, je prends un bête exemple, évidemment, hein? J'ai l'habitude de bêtes exemples. Je vais dans une clairière pour compter combien il y a de lapins. Il y en a 12 en fait, hein. Évidemment, quand j'entre dans la clairière, il y en a 5 qui s'en vont. Alors je compte, je dis, il y en a sept. Il y en a sept, mais il y en a cinq qui sont partis quand même. Hein. Avant que je n'entre dans la clairière, il y en avait 12. Donc il n'y a jamais moyen de savoir, avant d'entrer dans la clairière, combien il y en a. Mais une fois qu'on est dedans, eh bien, c'est plus ce qu'il y avait avant. Voilà, c'est le principe d'incertitude qui peut aller même jusqu'à la théorie du chaos. Ça veut dire qu'en principe, l'univers est déterministe, mais il y a tellement de micro-causes qui sont partout qu'il n'y a pas moyen de mesurer finalement le monde de manière déterministe. On fait l'hypothèse qu'il est déterministe, on croit qu'il est déterministe, mais en fait, c'est plutôt le chaos qu'on observe. Hein, c'est pas très encourageant, hein. Mais avec le fameux effet papillon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, hein. Quand un papillon bat de l'aile ici, eh bien, à la limite, ça pourrait provoquer un ouragan aux États-Unis, quoi, hein. Parce que de chaîne en chaîne, on arrive à l'effet papillon, hein, une toute petite cause, aléatoire, semble-t-il, eh bien, a de grands effets. Théorie du chaos, ça a eu beaucoup de succès à un moment donné. Le théorème d'incomplétude de Gödel, alors ça c'est aussi quelque chose de fort intéressant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Monsieur Ladrière, qui est un philosophe belge, eh bien, a prouvé ce théorème que Gödel a formulé sans pouvoir le prouver. Et moi j'ai eu la chance d'assister à la démonstration de ce théorème, ça a pris 30 heures. Nous avons eu 30 heures de cours de logique, oui, 30 heures de cours de logique, pour nous prouver que le théorème de Gödel était bon. Alors ça, le nerf de l'affaire, c'est qu'on mesurait les infinis. Hein. Il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres, plus petits, etc., entre les deux et tout. Bon. Et grâce à ça, on arrive finalement à cette démonstration. Le théorème de Gödel dit ceci. Si je prends deux axiomes, trois axiomes, quatre axiomes, le nombre que je veux, hein, je prends des axiomes. Les axiomes, c'est quoi? C'est une vérité qu'on considère comme vraie, mais qu'on ne peut pas démontrer, on la prend comme telle. Eh bien, à l'intérieur de ce système, avec trois axiomes ou quatre axiomes, je peux fabriquer des milliers de propositions, hein, qui sont correctes par rapport à ces axiomes. Mais les axiomes, je ne pourrai jamais les prouver eux-mêmes. Je les prends. Si j'enlève un axiome, je peux formuler un ensemble d'affirmations aussi, qui seront toutes correctes, mais qui seront moins évoluées, parce que j'ai deux axiomes plutôt que trois. Si j'ajoute un axiome, j'aurai un système plus complet, plus, etc., plus, enfin, avec une cohérence supérieure, enfin, cohérence par rapport à ça, mais je ne peux jamais savoir si j'ai pris les bons axiomes, et je ne peux jamais savoir si tout ce qui est là est vrai. Parce que pour le savoir, qu'est-ce que je devrais faire? Supposons que j'ai un théorème. Donc, dans la logique habituelle, il y a les trois axiomes, hein, de l'identité A égale A, de la négation A égale moins moins A, la contradiction, et puis le tiers exclu. On a ou bien A ou bien non A, et pas un troisième entre les deux. Hein. Ça, c'est la logique naturelle, la logique habituelle. Hein. L'identité, la contradiction et le tiers exclu. Si je veux faire un système plus puissant, je mets un quatrième axiome. Mais si je veux vérifier le système à trois axiomes, qu'est-ce que je dois faire? En ajouter un et créer un système plus englobant. Voilà. Donc vous comprenez, si j'ai trois axiomes, ben j'ai un système comme ça qui est cohérent. Et à l'intérieur, je peux dire que tout colle. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui regarde ici dira que c'est bon ou pas. Pas moyen de savoir. Si ce monsieur-là veut savoir si c'est vrai ou pas, il doit ajouter un axiome, alors il fera un système plus grand, mais dans lequel il sera inclus lui-même, et il ne sait pas si un observateur ici trouvera que c'est bon ou pas. Alors celui-là, ben, il peut encore ajouter un axiome, mais il sera toujours inclus dans son système.
Ça va à l'infini.
Ça va à l'infini ou ça va jusqu'à Dieu, hein? Donc ça veut dire que nous, comme hommes, nous sommes à l'intérieur du système. Et de l'intérieur du système, nous ne pouvons pas vérifier sa validité totale, complète. Je peux dire, à l'intérieur de mon système, je suis cohérent avec moi-même. Maintenant, est-ce que je rencontre le réel? Ça, difficile à savoir. Hein. Dans mon système à moi, je suis cohérent avec moi. Mais d'ailleurs, je peux bien, si j'ai envie, au lieu de prendre ces trois axiomes-là, j'en prends trois autres, ben, je ferai un autre système. Mais il ne sera pas, hein, il ne va pas couvrir le précédent. Le choix des axiomes a quelque chose d'arbitraire. Évidemment, dans la logique naturelle, ce n'est pas tout à fait arbitraire, mais a quelque chose d'arbitraire. Et il n'y a jamais moyen de sortir de son système. De son système de pensée, de son système logique. Alors ça, je trouve très intéressant parce que c'est un petit peu comme le mur de Planck, c'est un petit peu comme le principe d'Heisenberg. Ce sont toutes des indications que nous ne pouvons pas tout savoir sur notre univers. Et je crois que les physiciens tiennent compte, par exemple, de ces choses-là, en cherchant, bien sûr, à détourner ces principes, mais c'est extrêmement difficile. Alors, il y a bien sûr des critiques de la théorie de l'évolution venant des créationnistes. Des créationnistes. Alors, les créationnistes sont plutôt des espèces de fondamentalistes qui croient au récit de la Bible tel qu'il a été mis là. Mais même s'ils n'y croient pas de manière trop fondamentaliste, fondamentalement, ils pensent que tous les animaux qui existent aujourd'hui, ils ont été créés au début, tous là, et ils ont tous suivi leur ligne. Alors certains peut-être se sont arrêtés ici, et voilà un fossile, mais grosso modo, tout a été créé là-bas. L'éléphant ne vient pas de la souris ou de la fourmi, il a été créé l'éléphant dès le début. C'est pas une fourmi qui a grossi ou non, rien du tout. Tout a commencé tel quel.
En même temps.
Ça c'est le création. En même temps. Alors bien sûr, il y a un semi-créationnisme ou un semi-évolutionnisme disant que voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de choses de la théorie de l'évolution qui sont vraies. Il y a beaucoup de choses qu'on ne parvient pas à prouver maintenant, qu'on prouvera peut-être un jour. Ça, les scientifiques nous disent toujours qu'on prouvera ça un jour. Ça c'est la foi du scientiste. La foi du scientifique qui dit un jour on trouvera. Ouais. Un jour on trouvera, un jour on ressuscitera, c'est à peu près la même chose. Donc je crois qu'il y a une foi, il y a une foi du scientiste. Alors bien sûr c'est une autre méthode, je suis d'accord, mais il y a aussi chez le scientifique, devant une théorie comme celle-là, la possibilité de dire oui ou non. Parce que, théorème de Gödel, etc., il y a un impondérable. Et il doit choisir. Je dirais qu'il n'y a pas que l'homme de foi qui peut s'interroger par rapport à l'évolution en disant je crois ou je ne crois pas. Je crois que l'homme de science doit aussi s'interroger et dire je crois ou je ne crois pas. Parce que dans les scientifiques, ils sont tout à fait divisés aussi sur ces questions. Alors on peut évidemment penser plutôt à une théorie de l'évolution, disons, restreinte plutôt que généralisée. Parce que la théorie généralisée veut dire donc que tout vient d'une espèce de matière qui n'avait aucune apparence de vie, aucune apparence de quoi que ce soit, et que tout s'est fabriqué, certains disent carrément par le hasard, jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est la théorie la plus avancée de l'évolutionnisme, mais on peut admettre une théorie de l'évolution plutôt restreinte, en disant, mais peut-être qu'il y a un dessin intelligent, intelligent design, qui a quand même conduit cette affaire, et que ce qu'on remarque, eh bien, c'est pas le hasard, c'est une force qui, je ne sais pas quoi, une intelligence que, ou bien un germe qui était dedans, etc. Je crois que c'est plus ou moins acceptable. Et en même temps, on ne peut pas faire intervenir Dieu à tout moment pour guider l'évolution. Dieu n'est pas un démiurge intramondain. Il n'est pas à la tâche tout le temps. Mais quand même, il est à la tâche, mais tout en gardant sa transcendance. Alors comment faire pour penser religieusement qu'il est à l'œuvre et que le monde a son indépendance et que lui a sa transcendance, garder les deux positions. Alors bien sûr, il y a finalement des enjeux non scientifiques dans la théorie de l'évolution par rapport à la création. Les enjeux non scientifiques, c'est le matérialisme, le naturalisme, dire que tout est matière. Tout est matière, tout vient de la matière, tout n'est que matière, il n'y a rien d'autre. Que l'esprit, c'est une matière un peu plus compliquée, mais que ça n'a rien de... Il n'y a pas de discontinuité métaphysique entre la matière et l'esprit, entre le singe et l'homme. Et aujourd'hui, on va même pousser cela jusqu'à une théorie qui s'appelle le spécisme. Est-ce que vous connaissez ce mot ? Le spécisme. C'est un peu dans la vague de l'écologie, etc. Hein. Le spécisme, ça veut dire, c'est l'espèce. Hein. Ça veut dire que toutes les espèces se valent. Toutes les espèces se valent, et que 10 fourmis valent autant que 10 hommes, et on n'a pas le droit de tuer 10 fourmis plus que 10 hommes, enfin, que c'est aussi scandaleux l'un que l'autre, ou enfin... Mais qu'il n'y a pas de raison de croire que hein, le terme de cette évolution eh ben, donne un avantage à certains et pas à d'autres. Hein. C'est le spécisme. C'est à la mode pour l'instant. Hein. C'est une formule très avancée de la deep écologie, comme on dit, et de l'évolutionnisme. Alors, petite curiosité démographique. Donc, dans les simiens, là, il y a des orang-outans, des gorilles et des chimpanzés. Entre autres. Alors, je ne sais pas combien ils étaient il y a 5 millions d'années, etc. Mais actuellement, des gorilles, il y en a 30 000, des orang-outans, 30 000, des gorilles, 40 000, des chimpanzés, 100 000. Et des hommes, 7 milliards, je ne sais pas combien, en fait, ça augmente sans cesse. Donc, il est certain que ceux-là, ben, ils ont plutôt réussi leur envahissement de la Terre. Hein. Et ces espèces-ci sont occupées souvent à disparaître. Hein. 40 000, 30 000, 100 000, c'est très peu. L'humanité, d'ailleurs, on peut plus ou moins calculer aussi combien d'êtres humains il y avait à telle et telle date. Hein. En 500 avant Jésus-Christ, je ne me souviens plus combien il y en avait, mais en tout cas, il a fallu 800 ans pour doubler l'humanité. Puis il a refallu 400 ans pour la doubler une seconde fois. Mais maintenant, on double l'humanité en 40 ans. Hein. On double l'humanité en 40 ans. Donc ça va extrêmement vite. Or, de Aristote à je ne sais pas qui, à Saint Grégoire le Grand, par exemple, ben, il a fallu 800 ans pour doubler le nombre d'êtres humains sur la Terre. L'homme est vraiment envahi tout le bazar. Hein, et donc, voilà. C'est pourquoi il se croit ben, le roi de la création, etc. Hein. Alors, Théard de Chardin. Théard de Chardin avait évidemment été un chantre de cette aventure, hein, de la découverte surtout du côté paléontologique de cette aventure. Et il était à fond pour. Et il avait donc fait des recherches scientifiques, disons du niveau scientifique de l'époque bien sûr, hein, des fouilles, etc. Il a écrit pas mal de bouquins. D'ailleurs, il y a une dame ici qui m'a offert toute une série de bouquins de Théard, hein, que je consulte parfois. Mais l'Église a toujours eu des réticences avec cette théorie. Elle avait des réticences avec la théorie de l'évolution en 1950, dont il y a une encyclique qui a arrêté un peu plusieurs théologiens, dont Théard de Chardin, évidemment. Et donc Théard a publié des œuvres scientifiques, mais ces œuvres religieuses, mystiques, théologiques n'ont jamais été publiées. Hein. Elles ont toujours été interdites, toujours été arrêtées. En 1927, par exemple, il a écrit Le Milieu Divin, qui était en Chine. Il a écrit ce livre. On a voulu le publier à Namur. Hein. Le père Charles a pris contact avec lui pour publier ce volume. Eh bien, ça a été publié posthume. Après 1955, parce que toujours la censure a dit non, pas question, pas question, pas question. Et les Belges ont été assez actifs là-dedans, puisque c'est un capucin flamand, je crois, Wim Dirks, qui a publié les œuvres de Théard de Chardin après son décès. Alors pour lui, après Bergson, parce que Bergson avait déjà écrit un livre très important sur l'évolution créatrice, et il disait à peu près la même chose que Théard nous dira plus tard. Donc la phrase ici est de Théard. L'évolution n'est pas créatrice, comme la science a pu le croire un moment, mais elle est l'expression, pour notre expérience dans le temps et dans l'espace, de la création. Alors donc il fait une différence entre création et évolution. Et pour faire bref, la création c'est la même chose vue de Dieu, et l'évolution, c'est la même chose vue de notre point de vue. Hein. Dieu crée, et il crée, c'est notre foi, à partir de rien, ex nihilo, a deo, à partir de lui, hein, à partir de sa personne, à partir de ce qu'il est, de son être, qui qui est hors du temps et de l'espace, et lui, il crée. Ça, c'est la création. Mais l'évolution, c'est la manière dont nous, nous voyons la création s'effectuer. Donc, l'évolution créatrice, c'est un mot ambigu, hein, que Bergson a utilisé exprès comme titre d'un de ses livres, hein, l'évolution créatrice. L'évolution n'est pas créatrice, c'est l'évolution qui est l'expression de ce qu'est la création par Dieu de notre monde. Alors, comme je vous ai dit, moi je peine à croire que tout ça se soit fait par hasard et sans un plan prédéterminé, etc. Bon, je crois quand même que pour la création de l'homme, Dieu est sans doute intervenu, mais pas comme un démiurge, comme quelqu'un qui intervient à l'intérieur d'un processus physique. Mais nous continuons à croire, par exemple, dans notre foi, hein, qu'au moment de la conception de l'enfant, Dieu est l'auteur de l'âme. Hein. Il crée l'âme dans l'être humain. Alors ça veut dire quoi? L'âme, d'abord, personne ne la voit. Hein, donc ce n'est pas quelque chose de matériel, mais ça veut dire qu'il entre en relation avec cet être humain qui commence à être conçu et à naître. Ça veut dire qu'il y a une attention de Dieu pour cet être qui est occupé à grandir. Dieu crée l'âme. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'il dit « Attention, bougez-vous, je dois faire quelque chose ici. Ne m'empêchez pas de le faire. » Non, on ne peut pas l'empêcher de le faire. Ce qu'il fait, c'est vouloir être en relation avec cet être qui est né naturellement à travers tout ceci. Donc, je peine à croire que tout ça se soit fait par hasard et uniquement par la matière, mais Teilhard avait une tendance quand même à donner à la matière beaucoup de consistance, beaucoup de potentialité. Hein. Et à ce niveau-là, par exemple, eh bien, il estimait, ce sont un peu des grandes formules, que le Christ était finalement le Christ évoluteur, hein, celui en qui tout a été créé, etc. Et alors, il projetait assez vite toutes ces belles choses qui en effet sont magnifiques, hein, sur le Christ évoluteur. Teilhard et Blondel ont dialogué, pas directement, mais l'un a écrit sur l'autre et inversement. Teilhard a lu l'action de Blondel, il l'a noté d'ailleurs. Blondel aussi a lu les écrits de Teilhard et ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Hein. Alors bien sûr, Teilhard n'était pas un philosophe, Blondel n'était pas un scientifique, hein, mais chacun trouvait que Blondel estimait que Teilhard donnait trop à la matière comme matière. Hein. À la matière, il fallait plus l'individualiser dans des individus, dans des personnes, etc., avant de dire que la matière avait la potentialité de donner la vie. Hein. Il fallait déjà que ce soit quelque chose de plus, pas de l'ordre de la matière pure. Donc Teilhard, voilà, avait une médiation qui était plus mystique que philosophique. Il n'a pas écrit de bouquin de philosophie, mais il est passé de la science directement à travers la foi à une poésie mystique qui est merveilleuse, hein, qui est magnifique. Alors, je crois que il y a aussi une intuition qui me semble intéressante, c'est que nous avons une manière très, très curieuse de concevoir l'intelligence. Alors nous sommes ici occupés à travailler avec notre intelligence et nous trouvons que c'est très bien et que nous sommes des êtres intelligents et que bon. Mais moi je vous dirais que votre corps est plus intelligent que vous, hein. Parce que vous êtes occupé par exemple à digérer votre repas. Eh bien votre corps choisit les sucres qu'il faut pour digérer la viande que vous avez mangée et pas une autre, etc. Votre corps, vous n'en savez rien, hein? Vous n'êtes pas conscient de cette intelligence, mais votre corps est extrêmement intelligent. Il fait quelque chose que, si on devait le faire dans un laboratoire, ben, il faudrait déjà être un étudiant en doctorat, hein, pour digérer un morceau de viande dans une machine à lessiver. Hein? Ah oui, parce que c'est pas facile. Hein? Eh ben, votre corps le fait à votre insu. Il est plus intelligent que vous. Alors je parle de digérer, mais on pourrait parler de, bah, si vous avez une cicatrice quelque part, votre corps est occupé à guérir cette cicatrice, une maladie, elle lutte contre la maladie. Un adolescent, tout son corps est en pleine évolution hormonale, etc., il grandit et tout, son corps est extrêmement intelligent. Il fait des tas de choses que tout le monde trouve naturelles. Hein. Mais notre corps est intelligent, S'il y a une dame qui est enceinte, ben, son corps est occupé à faire des choses extraordinaires. Et nous, nous trouvons que, bon, ben...
Pas spécial, quoi. Hein. Pas spécial. Hein.
Tout marche bien, c'est normal, quoi. Hein. Si, par exemple, je mettais ici sur la table une très belle montre hein, et une rose, alors les gens s'approchent et disent oui, cette montre elle a vraiment l'air terrible, hein, elle est chouette, hein, oh là là, faut être intelligent pour créer ça, hein, oh là là, la rose, bah oui, la rose. Mais la rose est 1000 fois, 10 000 fois plus compliquée que la montre. Hein. Mais ça nous semble tellement naturel et l'intelligence, nous la plaçons là et nous croyons parce qu'il y a un petit peu de conscience de ceci ou de cela que nous sommes vraiment intelligents. Moi je crois que. Dans les organismes vivants, il y a une intelligence incroyable, mais qui est inconsciente et qui fonctionne même en nous-mêmes. Voilà, je crois que tout cela, évidemment, Teilhard le percevait. Et je vais terminer en lisant un petit extrait de la Messe sur le monde. C'est le début, je crois, oui. À mon avis, Teilhard, évidemment, était un grand scientifique de son époque, hein. Et donc aujourd'hui, bon ben, quand on lit ces livres, on est quand même un peu déçu parce que c'est dépassé. Ben oui, ben écoutez, il faut bien passer par là pour être dépassé. Donc, c'est très intéressant. Mais ce qui est très beau chez lui, c'est justement la manière dont il reprend tout ça de manière mystique, mais à mon avis surtout poétique. Moi, je crois que le succès de Teilhard est dû à sa plume magnifique. Pas seulement, évidemment, c'est un être très intelligent et il y avait beaucoup de connaissances. D'ailleurs, je vous signale que son petit-neveu sera ici demain, à 14h. Hein. Donc Pierre, il s'appelle Olivier Teilhard de Chardin. C'est un étudiant qui a étudié ici 7 ans hein, et qui est prêtre à Paris. Et donc, il viendra donner un témoignage demain, ici. Voilà, le petit-neveu de Teilhard de Chardin. Je vous lis donc ce passage hein, qui est connu. Puisque, une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes de l'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel. Je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Le soleil vient d'illuminer là-bas la frange extrême du premier Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la terre s'éveille, frémit et recommence son effrayant labeur. Je placerai sur ma patelle, mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront toujours bruits